voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et aujourd'hui, on la commence avec des articles plutôt véhéments qui font la une des journaux.
Et oui, dans la presse ce matin, nombreux sont les journalistes qui dénoncent. Dans Le Monde d'abord, on dénonce le soutien de la France au maréchal Haftar qui multiplie en Libye les offensives contre le gouvernement d'Union nationale. Un gouvernement d'Union nationale dont le chef a confié au Monde les mots suivants « C'est le soutien non proportionné de la France à Haftar qui l'a conduit à attaquer Tripoli ». Le journaliste explique ensuite les causes d'un soutien pointé du doigt. Haftar se présentant comme le seul à même de combattre efficacement le terrorisme, la France, inquiète de la montée en puissance de Daesh, s'est empressée de lui fournir des armes. Mais malgré ses belles paroles, et même si le Quai d'Orsay dit ne pas avoir été prévenu de l'attaque de Haftar, entre livraison d'armes, déploiement de militaires des forces spéciales et des clandestins de la DGSE, la France semble bien livrer en Libye une guerre secrète.
Et en parlant de guerre secrète et de dénonciation, Libération nous conseille pour ce soir un documentaire troublant.
C'est ça. Dans son documentaire « Retour à Kigali, une affaire française » diffusé ce soir sur France 3, l'ancien reporter de l'agence CAPA, Jean-Christophe Klotz, nous montre, au fil d'interventions des victimes et des acteurs du génocide des Tutsis, que l'événement était bien davantage une extermination planifiée qu'une série d'affrontements entre ethnies. Un travail troublant qui expose les preuves de la responsabilité française dans une extermination massive dont on commémore aujourd'hui les 25 ans. Mais dans la presse du jour, on dénonce aussi, c'est devenu une habitude, les méfaits des capitalistes avides d'argent et de pouvoir. Dans Le Monde, on s'en prend aux grandes enseignes qui ont engrangé un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros en commercialisant des produits bio, le tout avec des marges généreuses et sans forcément miser sur la qualité. Dans Libé, c'est à la diffusion des technologies de reconnaissance faciale que s'attaque Pierre-Antoine Chardel. Au nom du bien, ces technologies prolifèrent dans les champs commerciaux, publicitaires, sécuritaires, sanitaires ou éducatifs. Le risque, des algorithmes qui pourront désigner ceux qui seraient inhabituels ou jugés subversifs, par rapport à une norme arbitraire. Pour Lévinas, le visage de l'autre est par essence irréductible, aujourd'hui il est devenu un simple outil de contrôle. Et le journaliste de dénoncer le quadrillage technosécuritaire du territoire et l'avènement d'une société de surveillance généralisée. Et puis, parce que le canard n'a pas le monopole des jeux de mots, Le Point évoque cette semaine, je cite, « la guerre du Golfe en Écosse ». Derrière ce terme étonnant, une réalité, le projet d'extension du parcours de golf 18 trous que Trump a fait construire en 2016 près d'Aberdeen, un projet qui mobilise des riverains outrés par l'absence de rentabilité économique du golf autant que par ses désastreux impacts environnementaux.
Et tout en parlant d'environnement, ce serait pas le grand sujet du dernier livre de Fred Vargas ?
Et oui, exactement. À l'occasion de la sortie de son dernier livre, L'humanité en péril, un polar qui sonne comme un signal d'alarme sur l'urgence écologique, Fred Vargas relate dans les pages de l'Obs son travail de documentation. Elle décrit des semaines passées à plancher sur la sardine, le méthane, la fonte des glaces, et évoque aussi comment l'environnement s'est présenté à elle sous des aspects sombres et nouveaux, imbriqués les uns dans les autres. Et Vargas de nous exposer ensuite les ressorts de son roman. D'abord, le crime. Un crime avec un C majuscule concernant le monde du vivant et l'environnement tout entier, un crime dont, pour une fois, l'auteur ne connaissait pas la solution avant ses recherches, le crime le plus terrible qu'elle n'ait jamais vu. Mais dans un polar, il y a toujours une énigme, et dans L'humanité en péril, l'énigme est la suivante. Qu'attendent-ils ? Industriels, lobbyistes, gouvernements et milliardaires, tous dissimulent la réalité pour ne pas enclencher une panique qui provoquerait contraction du marché et fin du système capitaliste. Mais leur inertie, alors que la planète court à sa perte, demeure un mystère. Mais mystère, crime et coupable posé, reste pour le bon détective à trouver la solution de l'affaire. Et cette fois-ci, les solutions existent, nous dit Vargas. Non, nous n'allons pas laisser ce crime monstrueux se reproduire, et non, nous ne nous jetterons plus, je cite, sur des fraises pesticidées venues du bout du monde en hiver. Un livre édifiant et pertinent, indispensable.
Indispensable aussi de ne pas évoquer aujourd'hui les articles qui citent Notre-Dame, non ?
Oui, impossible en effet, une semaine après l'incendie qui a ravagé la toiture de la cathédrale, d'échapper aux articles qui reviennent sur les apprêts d'un événement qui fait couler beaucoup d'encre et suscite débats et réflexions. Alors certes, il y a les anthologies des textes qui célèbrent ce monument mythique qui fait battre depuis des années le cœur de la capitale, dans les pages du Point. Et oui, il y a aussi des articles qui lancent un appel à un élan du cœur pour les plus de 5000 églises françaises menacées de délabrement en une du Figaro. Mais ailleurs, on tire profit de la situation pour filer la métaphore de la reconstruction et proposer analyse et débat. Dans l'édito de l'Obs, Dominique Nora évoque l'attitude de Macron qui tente de satisfaire à la fois les conservateurs, en faisant référence au passé glorieux de la France, et les partisans de la modernité, en évoquant un projet architectural contemporain pour la reconstruction de la cathédrale. Une position qui ne fait que refléter, pour la journaliste, l'absence de cap d'une politique macronienne qui s'attache aux entre-deux et en vient à prendre des décisions symboliques plus que réellement utiles.
Et cette nouvelle querelle entre anciens et modernes, elle se joue aussi dans les pages des journaux, non ?
Oui, dans La Croix, les points de vue s'opposent. Pour Dominique Perrault, l'architecte de la BNF, il faut transcender la simple restitution de Notre-Dame et ne pas hésiter à proposer quelque chose de véritablement moderne. Et Perrault de justifier son argumentaire par une citation hugolienne bienvenue « Chaque flot de temps superpose son alluvion ». Une décision qui n'est pas de l'avis de tous, puisque quelques pages plus loin, l'architecte et militant Roland Castro s'oppose à un geste architectural contemporain qui risque fort d'être, je cite, « une immense transparence en verre qui brise la charge symbolique immense de l'édifice ». Édifice et symbole, ce sont d'ailleurs les termes qui ont inspiré l'édito du Point, un édito qui évoque une Union européenne consumée par le brasier populiste. L'Europe, bâtie sur les ruines matérielles et morales laissées par les deux guerres mondiales, a encore du travail avant de faire des Salvini et des Orban des gargouilles hors d'état de nuire.
Alors encore du travail pour Macron aussi.
Exactement. Comment Macron a préparé son grand oral, titre malicieusement Le Monde, qui rappelle que le président doit annoncer aujourd'hui les mesures pour relancer son quinquennat, notamment suppression de l'ENA, réindexation des petites retraites sur l'inflation et allongement du temps de travail. Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies, avait promis Macron le 10 décembre. Reste à savoir s'il réussira à entamer avec brio l'acte de tant souhaité de son quinquennat, alors que seuls 24% des Français pensent que le grand débat va permettre d'améliorer la situation du pays.
Une situation nationale passée au crible par des reportages inédits aujourd'hui ?
Exactement. Du jaune au noir, titre l'Obs, qui consacre un article aux gilets jaunes devenus Black Blocs et qui parle des Black Blocs comme d'une famille, une communauté avec ses codes, ses rites et ses martyrs, sa mythologie et ses convictions, une communauté qu'ils abaissent au mi-analyse en insistant sur le fait que la répression a renforcé l'idée que la violence était légitime. Mais au-delà des dénonciations et des violences, terminons cette revue de presse par un peu de positif. Dans les pages culture du Monde, on trouve aussi la notion du jour, sûrement moins pourrie que celle d'Arthur, celle de troisième nature. Pour John Dixon Hunt, il existe en effet une première nature, vierge de toute intervention humaine. La deuxième nature est celle qui, selon Cicéron, est retravaillée par l'homme, tandis que la troisième apparaît au XVIIe pour désigner les jardins et l'espace d'une nature ornementale. Une notion de troisième nature qui séduit artistes et paysagistes et qui, pour l'anthropologue Anat Singh, continue à exister dans le système capitaliste. Il s'agit de la nature qui prolifère dans les friches, à la périphérie des capitales, une troisième nature qui, bien que méconnue, permet la régénération des forêts et des terres abandonnées. Pas de retour à la nature donc, mais une nature qui cohabite avec les exigences du monde actuel. C'est peut-être utopique, mais on a envie d'y croire. En attendant mieux, rappelons-nous l'optimisme de Vargas.
Merci pour cet optimiste, Marie.
Le journal radiophonique amplifié
sur Transistor.
Merci beaucoup, effectivement. Et à 20h passées de 51 minutes, c'est l'heure de ta notion pourrie, Arthur.